je ferai pendre ces traîtres à des crocs de boucher. Déclaration d'Adolf Hitler après l'échec de l'attentat du 20 juillet 1944.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Parmi les élites allemandes à l'époque de l'Allemagne nazie, il y a eu régulièrement des projets et des pensées pour élaborer des attentats contre le Führer, contre Adolf Hitler. Le premier projet sérieux a été imaginé par le général Beck, chef d'état-major de l'armée de terre, au moment de la crise des Sudètes en Tchécoslovaquie en 1938. Sauf que le complot n'avait aucun sens à partir du moment où, à la conférence de Munich, les franco-britanniques avaient cédé devant les exigences d'Hitler. De même, il y a eu un autre attentat organisé à Munich, l'attentat dit de la Brasserie, le 8 novembre 1939, où un colis piégé avait été placé près de l'estrade où se trouvait, où devait se trouver Hitler. Mais comme il est arrivé en retard, eh bien, l'objet a explosé avant même qu'Hitler ne soit dans la salle. De même, au sein de la Wehrmacht, certains hauts officiers, je pense en particulier au général Hans Oster, qui a renseigné à plusieurs reprises l'attaché militaire hollandais de la date de l'attaque allemande contre les Pays-Bas et la Belgique. C'était une manière pour lui d'éviter l'éventuel triomphe nazi en avertissant les Alliés. Encore au mois d'avril 1943, des officiers ont placé une bombe dans un avion qui devait conduire Hitler en visite sur le front de l'Est. Mais à la hauteur où se trouvait l'avion, eh bien, la bombe qui était à l'extérieur a gelé et l'avion a pu atterrir sans difficulté sur un terrain proche de Kiev. Ainsi, il y a bien eu des attentats, mais aucun n'a véritablement fonctionné. Le plus célèbre est indéniablement celui du 20 juillet 1944. La tête pensante de l'attentat est le comte Klaus von Stauffenberg. Il est de tradition catholique, mais c'est un officier de la Wehrmacht qui a fait pendant quelques années, comme l'on dit, son devoir. Il a été gravement blessé lors de la campagne de Tunisie au printemps 1943 et il a perdu un œil. Mais il a le sentiment, à l'été 1944, que pour éviter le désastre absolu, vers lequel se dirige l'Allemagne, qui n'a plus aucune chance de s'en sortir. En effet, le 6 juin 1944, les Alliés ont débarqué en Normandie, et ils progressent. Et le 22 juin 1944, les armées soviétiques, lors de l'opération Bagration, ont écrasé tout le secteur central du front de l'Est et avancent vers Varsovie. Von Stauffenberg a donc l'impression que pour éviter le désastre absolu, il faut tuer le Führer. Il prend des contacts avec certains hauts gradés de la Wehrmacht, le général Friedrich Olbricht, le général Henning von Treschow, mais également avec des commandants de troupes en opération. C'est le cas avec le général Karl Heinrich von Stupnagel, le commandant des troupes d'occupation en France. Il va également avoir un contact avec le maréchal von Witzleben. Même le maréchal Rommel a été au courant d'un projet d'attentat qui s'organisait contre le Führer, et un autre maréchal du Reich a été également contacté, le maréchal von Kluge, qui, à la fin du mois de juillet 1944, avait été nommé commandant en chef du front de l'Ouest. Donc, vous le voyez, il y a des ramifications relativement importantes au sein des forces armées allemandes, mais également dans le milieu de la diplomatie. Des anciens ambassadeurs participent au complot. C'est le cas de Ulrich von Hassel, qui a été ambassadeur à Rome entre 1932 et 1938, ou Erich von der Schulenburg, qui était ambassadeur à Moscou en 1941. Le projet est, si j'ose dire, relativement simple. Il faut tuer directement Hitler. En effet, von Stauffenberg, qui, à ses entrées à l'état-major, propose de placer, dans la salle de l'état-major général du Führer, un cartable piégé. Il va le poser sous la table, adossé à un pilier qui soutient la table, et normalement, l'explosion devrait tuer Hitler. Or, un détail va changer les choses. En effet, le Führer a l'habitude de commencer l'analyse des cartes du jour par le front de l'Est. Or, ce 20 juillet 1944, il commence par le front de l'Ouest, car en effet, le front en Normandie est en train de s'effondrer devant la poussée anglo-américaine. Et en changeant de carte, il modifie, je dirais, un peu la donne, car la bombe va véritablement exploser. Elle va d'ailleurs faire des victimes, mais Hitler n'est que relativement peu atteint par la bombe. Or, Stauffenberg, quand il voit la salle exploser, est persuadé qu'Hitler vient de mourir. Et il annonce à ses complices de ce qu'on a appelé l'opération Valkyrie, le Führer est mort. Or, ce n'était pas le cas. En effet, Hitler est bien vivant. Il y a quelques heures de trouble et de confusion, parce que l'opération Valkyrie avait prévu de prendre le pouvoir à Berlin, d'organiser finalement un gouvernement qui remplacerait le gouvernement nazi. Il s'agissait d'arrêter les principaux dirigeants nazis. Et d'ailleurs, on va au ministère de la Propagande, où se trouve Joseph Goebbels, qui pendant quelque temps est arrêté, soi-disant, parce que le Führer était mort. Mais à partir du moment où Hitler prend la parole à la radio, tout le monde est bien conscient que Hitler n'est pas mort du tout, et que le pouvoir nazi ne s'est pas détruit avec le décès du Führer. L'opération Valkyrie est donc un échec terrible. Hitler fait visiter, quelques heures après l'attentat, la salle où la bombe a explosé. Il fait visiter cette salle à Benito Mussolini, qui est venu en visite officielle au quartier général du Führer. C'est la dernière fois que les deux hommes se verront. Mais la répression va être confiée à Heinrich Himmler, chef de la SS, qui va effectivement procéder à de très nombreuses arrestations, puisque quasiment tous les complices de von Stauffenberg, lui-même exécuté, vont être arrêtés. Certains se suicident, d'autres par contre vont être jugés par le juge Roland Freisler, de triste mémoire. Nazi fanatique, celui-ci avait été nommé à la tête du tribunal de l'État en 1942, il s'était déjà illustré par les attaques contre les résistants étudiants de la Rose Blanche en 1943. Les images d'ailleurs ont été tournées de ces procès. Elles sont particulièrement fortes. Freisler ne cesse de hurler contre les accusés. On cherche même à les humilier. Par exemple, le vieux maréchal von Witzleben est vêtu d'un pantalon beaucoup trop large. Il n'a pas de ceinture, ce qui fait que le pantalon ne tient pas. Il est obligé, pour éviter de le voir tomber sur ses chevilles, de le tenir avec sa main gauche. Il s'agit donc bien d'humilier ce vieil officier de la Wehrmacht. Évidemment, toutes les condamnations sont des condamnations à mort. Progressivement, effectivement, entre l'automne 1944 et l'hiver 1945, on va exécuter systématiquement les participants au complot. Le dernier à être tué parmi les grands représentants de l'opposition à Hitler, c'est Karl Friedrich Gödel, qui sera exécuté le 2 février 1945. Le maréchal Rommel lui-même ne sortira pas de l'affaire de l'attentat du 20 juillet. Certes, il n'avait pas participé véritablement au complot, mais il était au courant qu'il se tramait quelque chose contre Hitler et il va être contraint, en octobre 1944, de se suicider, ce qui lui permettra d'éviter sans doute à sa famille une représaille forte et il aura un enterrement dit national. Mais l'échec de l'attentat du 20 juillet va évidemment pousser à un plus grand fanatisme l'Allemagne nazie en agonie. Il est donc dit que cette Allemagne qui avait déclenché la guerre en 1939 allait boire le calice jusqu'à la lie, jusqu'au suicide d'Hitler le 30 avril 1945 et jusqu'à la capitulation sans condition le 8 mai 1945.